le magazine des Nations Unies.
Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du magazine des Nations Unies. Tout de suite, les titres. Dossier Radio Okapi, le signal a été finalement rétabli mardi dernier. C'est le résultat d'un compromis entre le CESAC et les responsables de la radio onusienne. Mais quel est véritablement le statut de cette radio? Réponse dans cette édition. Le FMI n'a pas suspendu son appui financier en RDC. C'est un programme qui est arrivé à son terme. Précision du représentant résident de cette institution de Bretton Woods après l'annonce du gel d'un prêt de 240 millions de dollars à la RDC par le Fonds monétaire international. Enfin, Babacar Gaye, conseiller militaire du secrétaire général des Nations Unies, était en mission en RDC. Il sera l'invité de Jean-Pierre Elali Coco dans ce magazine. Tout de suite, l'actualité de la semaine.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Le dossier Radio Okapi est revenu à la conférence hebdomadaire des Nations Unies le mercredi dernier à Kinshasa. Des journalistes présents à cette conférence ont posé plusieurs questions à ce sujet, dont celle liée au statut de la radio onusienne et à l'immunité de ces journalistes. Les détails avec Jean-Pierre Elali Coco.
Quel est le statut de Radio Okapi? Est-ce une radio nationale ou internationale? Les journalistes de Radio Okapi jouissent-ils d'une immunité diplomatique? Écoutez plutôt la réponse de Manong Mouloubaï, porte-parole de la MONUSCO.
Les journalistes de Radio Okapi, au même titre que le personnel de la MONUSCO, bénéficient d'une immunité dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, parce qu'ils sont attachés à la MONUSCO. C'est une immunité attachée dans l'exercice de leurs fonctions. Ce n'est pas une immunité diplomatique, comme vous le dites. En ce qui concerne la première question, quel est le statut de la Radio Okapi? L'existence juridique de Radio Okapi est contenue dans l'accord de siège signé entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les Nations Unies. La Radio Okapi n'est ni plus ni moins qu'un des instruments qui existent à l'intérieur de la MONUSCO pour la mise en œuvre de son mandat. Radio Okapi n'est ni plus ni moins que la division des affaires politiques, la direction électorale, etc., etc.
Le signal de Radio Okapi a été rétabli mardi 4 décembre dernier après une suspension de 4 jours sur décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Finalement, un compromis entre les CESAC et les autorités de la radio a été trouvé. Pour rappel, le signal de Radio Okapi a été suspendu le samedi 1er décembre dernier. Les CESAC exigeaient de la radio onusienne qu'elle dépose son cahier de charges.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le général Babacar Gaye, conseiller militaire du secrétaire général des Nations Unies, a achevé mardi dernier une mission en RDC, plus précisément au Nord Kivu, au Sud Kivu et à Kinshasa. Objectif de la mission, transmettre le message de soutien et d'appréciation de Ban Ki-moon au casque bleu de la MONUSCO, après les événements qui ont conduit à l'occupation de Goma par les rebelles du M23. Outre l'objet de sa mission, le général Gaye évoque les sujets tels que la requalification du mandat de la MONUSCO, le rôle de cette mission onusienne dans la sécurisation de la ville de Goma et la prochaine cohabitation entre les hommes du M23 et les FARDC à l'aéroport international de Goma. Il répond aux questions de Jean-Pierre Elali Coco.
Général Babacar Gaye, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseiller militaire du secrétaire général des Nations Unies. Vous êtes en mission en RDC. Vous avez commencé par le Nord Kivu. Quel est l'objectif de votre mission générale?
Ma mission regroupe plusieurs centres d'intérêt. Le premier est incontestablement la mission. Je suis venu ici au nom du sous-secrétaire, du secrétaire général adjoint, M. Latsous, qui est le chef du département de maintien de la paix, exprimer aux soldats, à nos collègues civils, ainsi qu'aux policiers des Nations Unies déployés dans le Nord Kivu, ainsi qu'au Sud Kivu, j'ai été d'ailleurs, le soutien et l'appréciation que les Nations Unies portent sur leur action. Nous savons les conditions difficiles dans lesquelles ils ont eu à opérer les dernières semaines, et il a paru du devoir du département d'envoyer un des responsables marquer son soutien à ceux qui, sur le terrain, étaient en première ligne.
C'est un message de félicitations, si on veut le dire.
Bien évidemment, j'imagine ce qui recouvre cette question. Il y a une frustration que nous n'ignorons pas, de voir des hommes en armes entrer dans une capitale provinciale, et bien sûr, une situation qui crée énormément de frustration, énormément d'amertume. Ne croyez pas que les Nations Unies y soient insensibles, parce qu'elles sont ici pour la protection des populations, et elles savent très bien ce que cette entrée a pu créer comme déplacement de population, comme crainte, comme difficulté. Il y a eu, en somme, cette raison d'être de la protection des populations, qui depuis le sommet de 2005 est que les gens vivent en paix. On sait que cette paix a été perturbée. Donc, de ce point de vue, je peux vous assurer qu'on partage l'amertume, qu'on partage les frustrations. Mais derrière cela aussi, il y a le dévouement de soldats qui sont venus loin de chez eux, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans un contexte que tout le monde connaît. Donc, il faut faire la part des choses.
Oui, vous parlez, général, de la protection de la population. Le M23 s'est retiré de Goma, vous le savez. Et quel dispositif la MONUSCO, disons les Nations Unies, prennent-elles pour contrer un éventuel retour des rebelles du M23 dans la ville de Goma?
Les dispositions qui nous semblent les plus pertinentes sont celles qui ont permis le retrait des rebelles du M23, c'est-à-dire un engagement politique qui a été pris au niveau de la sous-région, qui comporte plusieurs mesures, dont certaines, fort heureusement, ont commencé à être appliquées. Le retour de la police nationale congolaise, le retour d'un bataillon des FRDC dans la ville, le départ du M23, toutes ces mesures qui font partie des décisions du sommet, ce sont ces mesures-là qui sont les garanties les plus durables pour une solution définitive de cette crise.
Et la part de la MONUSCO?
La MONUSCO, sa part a été évoquée dans cette décision des chefs d'État. On attend d'elle qu'elle puisse contribuer au respect de la zone qui va séparer les FRDC du M23. Et elle va y patrouiller de telle sorte que l'on puisse savoir ce qui s'y passe. Elle va continuer à assurer du mieux de sa possibilité son mandat de protection des populations, qui est un mandat au titre duquel elle a eu des séquences, comme l'on dit, d'une très grande robustesse, qui se sont quand même traduites sur le terrain par des actions qui, à certains égards et durant certaines périodes, s'apparentaient tout simplement à la guerre. Mais il faut convenir, et il ne faut pas avoir crainte de le dire, car c'est le mandat qui a été donné.
Justement,
à la mission des Nations Unies, oui. Ce n'est pas un mandat de faire la guerre, c'est un mandat de protection des populations.
Oui, la société civile générale, les politiques même et la population congolaise en général, appellent à un élargissement du mandat de la MONUSCO pour une intervention, comme vous l'avez dit, plus robuste, qui irait au-delà même de la protection de la population civile. Comment se prépare-t-on à New York pour un renforcement des forces de la MONUSCO?
Cette question n'est pas pour le Conseil militaire du secrétaire général, elle est pour le Conseil de sécurité. C'est le Conseil de sécurité qui donne les mandats aux forces des Nations Unies.
Sous la proposition du secrétaire général des Nations Unies?
Il y a bien évidemment un partenariat, il est important de le rappeler, entre le Conseil de sécurité, le secrétariat des Nations Unies et les États membres. C'est en somme ces trois partenaires qui le concernent, chacun en ce qui le concerne, vont préparer les décisions du Conseil de sécurité. Mais encore une fois, c'est au Conseil qu'il appartient de donner les mandats.
Est-ce qu'on y réfléchit au moins à ce sujet?
Le Conseil a prescrit que l'on y réfléchisse et qu'on revienne vers lui dans les meilleurs délais.
Ok. Et une dernière question générale. Comment se fera concrètement la collaboration entre le M23, les FARDC et les casques bleus de la MONUSCO à l'aéroport international de Goma? C'est quand même inquiétant et même délicat selon la population ici.
Je répondrai de manière volontairement évasive en vous disant que le diable est dans les détails. Mais je peux vous assurer que les Nations Unies agiront toujours en respect des principes pour lesquels ils ont été créés. Il est prévu qu'il y ait une unité comprenant le M23, les FRDC et une unité de la force neutre. Il n'est pas prévu que la MONUSCO fasse partie de cette unité. Maintenant, il y aura certainement, si cette unité est déployée, collocation à l'aéroport de Goma. Je fais entière confiance au commandant de la force ainsi qu'au chef de bureau de la MONUSCO à Goma, sous l'autorité du représentant spécial, pour que les principes des Nations Unies soient respectés et qu'aucun accroc ne sera fait sur ce chemin qui, nous l'espérons, va mener à la paix.
Mais cela ne s'est jamais fait de belligérants sur un même aéroport, et ça ne s'est jamais fait dans le monde. Il n'y a qu'en RDC que cela se passe, général.
Je crois qu'il serait plus juste de dire deux ex-belligérants.
Je rappelle à nos auditeurs que nous recevions le général Babacar Gueye, qui est un habitué de la RDC parce qu'il a dirigé les forces de la MONUSCO ici. Général Babacar, je vous remercie.
Merci infiniment.
Environ 130 000 déplacés vivant dans 12 sites dans la ville de Goma et ses alentours, 70 cas de viol pris en charge dans les centres de santé de Minova, dont 52 ont bénéficié de kits de prophylaxie post-exposition dans les 72 heures. Ce sont là des statistiques communiquées mercredi dernier par OCHA, le Bureau de coordination des Nations Unies pour l'aide humanitaire. Plusieurs activités de volontariat sont planifiées à travers la RDC dans le cadre de la Journée internationale des volontaires, célébrée le 5 décembre. Les volontaires des Nations Unies vont ainsi se mobiliser pour promouvoir les valeurs du volontariat et l'engagement citoyen. Une soixantaine de photographies du PNUD au centre d'une exposition qui va jusqu'au 29 décembre prochain à l'Institut français à Kinshasa, Hall de la Gombe. Visage congolais, action de changement, tel est l'intitulé de cette exposition. Ces photos ont été prises en août et en septembre dernier à Kinshasa, dans le Bandundu, au Kasaï oriental, dans les deux Kivu et en Ituri, dans la province orientale. Elles témoignent des projets mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le Développement dans le cadre de son cycle de programmation 2008-2012 en République démocratique du Congo.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le Fonds monétaire international n'a pas suspendu son financement à la RDC. C'est un programme qui est arrivé à son terme. La précision a été donnée par le représentant résident du FMI à Kinshasa. C'était le mardi dernier. Selon Oscar Melado, la RDC et son institution n'ont fait que respecter le programme élaboré en décembre 2009 et qui devrait prendre fin le 10 décembre 2012. Oscar Melado s'entretient ici avec Paul Matindo.
Monsieur le représentant résident, bonjour.
Bonjour.
Le Fonds monétaire international suspend son prêt de 240 millions de dollars américains à la RDC pour le fait de ne pas avoir publié certains contrats miniers. De quels contrats s'agit-il concrètement?
Ce n'est pas une suspension, mais c'est une chose que le programme a été originalement défini le 10 décembre. Bien sûr, et si on considère tous les éléments maintenant et la priorité que le gouvernement a sur la situation de sécurité, c'est une situation difficile. Ce n'est pas la meilleure nouvelle d'avoir dans une situation de problèmes de guerre dans l'Est. Oui, ça c'est clair. C'était originalement un programme de 300 qui a été signé le mois de décembre 2009 et va se finir le 10 décembre 2012. Qu'est-ce qu'on avait fait? Nous avons laissé, comme a été programmé, de laisser finir le programme. Donc maintenant, on doit regarder comment est-ce que nous aurons les engagements dans ce type de relation. Nous avons un programme très actif d'assistance technique. Et bien, au niveau des programmes, on va laisser les autorités de réfléchir parce que maintenant, ils sont une situation de sécurité à l'est du pays. Et après ça, nous démarrerons autrefois des discussions pour avoir un nouveau type de réengagement. Mais nous travaillons étroitement avec l'RDC. Nous reconnaissons tous les progrès que la RDC a fait dans les dernières années, particulièrement au niveau de la macroéconomie. La gérance macroéconomie est devenue plus sérieuse. Bien sur le niveau du secteur minier, la RDC a publié 134 contrats. Donc, il y a beaucoup de réformes et la gérance macroéconomie a devenu plus sérieuse. Et donc, c'est une chose qu'on doit continuer à travailler et appuyer le pays. Il y a beaucoup de progrès sur le contrôle budgétaire, sur la réforme de l'indépendance de la Banque centrale. Bien sûr, ça, ce n'est pas une chose parfaite, mais le pays fait des progrès.
Selon une dépêche de BBC News que nous avons reçue à notre rédaction, le FMI demande beaucoup plus de transparence à la RDC. On sait que le gouvernement congolais avait cédé en 2011 les permis au groupe Kazakh et NRC pour opérer la mine de frontières qui appartient à Fisto Quantum. Le gouvernement a publié récemment une note de cette vente. N'est-ce pas là une preuve de transparence?
La première chose, nous ne nous engageons pas sur les détails de la transaction. Notre souci est principalement la publication et la transparence. Déjà, ils sont publiés déjà 134 contrats. Et il y a un contrat qu'ils ont publié, un procès verbal, Et c'est sur ce contrat qu'il y avait une discussion entre les autorités et nous pour regarder si le programme peut être prorogué pour 6 mois.
Monsieur le représentant, on a l'impression que le FMI récale la RDC pour le problème qui concerne un seul contrat, alors qu'il y en a plusieurs que la RDC a rendu public.
Qu'est-ce qui se passe? Nous reconnaissons tous les progrès qui ont été faits, mais sur les domaines des secteurs miniers, on applique un concept de conditionnalité stricte. Donc, les choses doivent être d'une manière strict considéré, parce que nous considérons que ça c'est stratégique pour le pays. La construction des institutions transparentes, et particulièrement sur la gérance des actifs miniers du pays, c'est important. Donc je pense que c'est le moment de regarder plus le futur.
Pourquoi le FMI n'est pas aussi sévère envers d'autres pays qui exploitent illégalement les coltans, par exemple de la RDC, et qui de surcroît alimentent la guerre à Goma?
Maintenant, je m'occupe de la RDC. Je ne suis pas le représentant d'un autre pays pour parler avec toutes les autorisations et l'autorité et pour connaître toute la situation. Le que je peux dire, que c'est stratégique pour le pays, les gérances de les ressources minières, et dans cette période, c'est important d'être rigoureux sous la gérance de ça. Être rigoureux et être clair et de l'application des règles claires. Donc, le pays a progressé beaucoup et est en train de progresser plus, mais encore, on doit continuer à travailler sur ça.
Monsieur le représentant résident, je vous remercie.
Je vous remercie aussi.
Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida, la section sida de la MONUSCO a organisé une campagne de sensibilisation au sein du système des Nations Unies à Kinshasa. Une campagne qui a duré une semaine. Honoré Missenga Kalala nous fait vivre quelques moments de cette sensibilisation.
VIH, virus d'immunodéficience humaine. C'est un virus, quand il entre dans le corps de l'homme, il diminue les moyens de défense du corps. Et un corps qui n'a pas de moyens de défense ressemble à un pays qui n'a pas d'armée. Et ça veut dire quoi? S'il n'y a pas de militaires dans les pays, qu'est-ce que les voisins vont faire? Ils vont profiter de l'absence de l'armée pour attaquer.
C'est là l'une des séances d'enseignement et d'information organisées par la section VIH-SIDA de la MONUSCO au profit du personnel onusien. C'était mardi 4 décembre au quartier général de la mission. Il ne s'agissait pas que de donner des informations sur le fléau. La campagne consistait aussi à offrir au personnel sur le champ la possibilité de se faire dépister. Madame Dorsela Bazaïka, la chef de la section VIH-SIDA de la mission, exprime ici sa satisfaction.
Par rapport au personnel qui vient pour la sensibilisation, partout où nous sommes passés, la moitié fait le dépistage. Donc nous voyons un engouement et on se dit que c'est encourageant comme début. Et on ne fera pas seulement la promotion du dépistage pendant la journée mondiale. On va continuer à faire le dépistage, à offrir des services de dépistage en temps normal, au quotidien, pour que tout membre du personnel sache au moins son statut. Ce que nous sommes en train de faire concerne aussi les membres de la famille. Et nous avons prévu une activité le 8 décembre pour que tous les membres de la famille puissent venir et que nous offrions aussi le service de dépistage pour que nous puissions vivre non seulement sur le lieu de travail en connaissant notre statut, mais aussi en famille, que nous puissions briser le silence autour du fléau du VIH en famille.
Briser le silence, c'est ce que semble avoir compris ces deux agents venus se faire dépister.
Juste pour faire mon test, pour connaître mon état de santé. Je pense que ça permet de protéger aussi la famille et les amis et collègues. En fait, on protège son environnement, quoi. Connaître son état de santé, c'est une bonne chose.
Depuis que je suis né, je n'ai pas encore le fait. Parce que j'ai eu l'occasion, c'est ça, je voulais le faire. Oui, j'ai 2 enfants.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je m'appelle Daniel Wangisha, je suis marié, je fais une formation théologique et je fais ICEA, Institut Congolais de l'Audiovisuel. J'ai en charge de la prise de vie au sein de Nations Unies depuis 8 ans. J'arrive le matin, je reçois le programme du jour, avec mes collaborateurs, mes collègues de service, pour le programme que nous allons aller prendre des images sur le terrain. Et nous descendons sur le terrain. Au retour, avec les images, je écris une petite synthèse de ce que nous avons fait sur le terrain et je le remets au producteur pour la suite du programme, pour la diffusion. Avant de venir ici à l'agence, j'ai été en charge de canal CVV et j'ai fait RFO, Réseau France Outre-mer. Et après, j'ai pu avoir l'opportunité de travailler ici aux Nations Unies. Pour mon temps libre, dès que je rentre à la maison, je me repose, j'ai le temps de lire et de penser aussi à ce que le programme qui m'attend, au travail que je puis laisser pour le prochain jour. Mes préférences, j'aime vraiment regarder le football, regarder les matchs internationaux, tels que, surtout s'il y a Real Madrid qui joue, Cristiano Ronaldo et les autres, en tout cas Real et Madrid. Et après les Nations Unies, je compte créer une agence à images pour juste produire les images à d'autres chaînes internationales. Voilà. Merci.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Bonjour. Je m'appelle M. Talima Koufanikisa, serveur dans un restaurant. Ma question s'adresse à la FAO. Quelle est l'action compte entreprendre la FAO pour faire face à la crise alimentaire et agricole dans l'est de la RDC, compte tenu de la situation sécuritaire et qui est vraiment instable? Et notamment, depuis l'occupation par le M23 du Nord Kivu, que compte faire la FAO en faveur des déplacés après la crise actuelle dans cette province? Merci beaucoup.
Merci pour votre question. Pour y répondre, nous nous sommes dirigés vers la FAO. Serge Tissot, coordonnateur des opérations d'urgence dans cette agence, a bien voulu vous répondre. Nous l'avons joint au téléphone.
Oui, je crois que la question de votre auditeur demande une explication préliminaire sur le système des Nations Unies, sur son fonctionnement. Il faut savoir que chaque agence des Nations Unies a un mandat spécifique. La FAO s'occupe d'agriculture, d'élevage, de pêche ou même encore de forêt, mais n'effectue pas de distribution alimentaire d'urgence. Ça, c'est le mandat du PAM, donc du Programme Alimentaire Mondial. Bien que la FAO soit déjà présente sur le terrain à l'heure actuelle, notamment pour le suivi de la sécurité alimentaire, notamment en veillant à l'approvisionnement des marchés et aux fluctuations des prix sur les marchés, nous n'avons donc pas d'activité à l'heure actuelle sur le terrain. Notre activité principale se situe plutôt en deuxième phase, au moment où les personnes déplacées rentreront chez elles et pour les aider à reprendre pied dans l'agriculture et à recommencer leur production agricole. Donc nous avons déjà des projets qui sont en cours de réalisation ou bien qui seront réalisés au moment de la prochaine saison agricole. Ces projets s'adresseront à la fois aux personnes qui vont rentrer dans leur village, mais également aux familles d'accueil pour les personnes qui ne seront pas rentrées dans leur village, et également à des personnes qui seront toujours dans des camps, mais là, nous aurons plus un travail qui sera centré sur des cultures comme le maraîchage ou des choses de ce type-là. Donc ça, ce sont un peu pour les opérations d'urgence à proprement dit, mais notre accompagnement au niveau de l'agriculture se poursuivra avec des opérations de réhabilitation au cours du temps. Oui, nous avons des projets pour toute la zone est hein, où il y a des conflits et nous avons des projets à l'heure actuelle qui sont assez flexibles, qui couvrent à la fois le nord et le sud Kivu et s'étendent également dans d'autres parties de la zone est où on a des conflits. Donc nous avons des projets notamment financés au travers du Pool Fund et on conservera une certaine flexibilité dans la réalisation de ces projets en fonction des urgences que l'on va constater sur le terrain.
Le
magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Des dates à retenir dans votre agenda de la semaine qui commence les 10, 11 et 12 décembre. Des activités sont prévues en marge de la journée internationale de lutte contre la corruption, célébrée le 9 décembre. Il s'agira d'activités de sensibilisation aux méfaits de la corruption, organisées dans un partenariat avec l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle par le PNUD et l'UNESCO. Trois sites ont été ciblés. Le collège Bonsomi, le lycée Motema Pico et le collège Boboto. À noter également, ce lundi 10 décembre, c'est la journée mondiale des droits de l'homme. Ici, à Kinshasa, le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme prévoit une série d'activités dans le cadre de la célébration de cette journée. C'est la fin de cette édition du magazine des Nations Unies. Mila Kimbuni vous l'a présenté grâce à la dextérité technique d'Héritier Sidiakala. Jean-Pierre Elali, Coco l'a coordonné sous la supervision de Nikon Gaka. Honoré Misenga était au reportage. Si vous avez aimé cette édition, ne ratez pas sa rediffusion à 19h03, heure de Kinshasa. Vous pouvez également l'écouter sur notre site internet www.radiocapi.net. Pour vos remarques, vos suggestions et vos questions, contactez-nous au 082 30 76 630. Merci et excellente journée dominicale à tous.